Lucifer, son of the morning, I'm gonna chase you out of earth. I'm gonna put on an iron shirt and chase Satan out of earth.
20h02, vous êtes sur Radio G, bienvenue dans Génération Sport. Je suis ravi de vous retrouver, bonsoir à toutes et à tous. Nous sommes ravis de vous retrouver après une semaine riche en actualités sportives. Au programme ce soir, les infos locales bien évidemment. Nous allons parler aussi du SCO, mais d'une manière différente, puisque nous allons penser à vous et à votre budget. Avec les droits TV du foot. Après la pause musicale, nous aborderons l'Euro 2024 et la victoire de l'Espagne. Le Tour de France avec pour l'instant un tour dominé par un Slovène, Tadej Pogacar. Le tennis avec la fin de Wimbledon et la victoire de Carlos Alcaraz. Pour évoquer l'ensemble de ces sujets, nous avons une équipe réduite ce soir, mais une équipe tout de même bien présente et bien chauffée à blanc pour pouvoir évoquer l'ensemble de ces sujets. Faustin et Alex ne sont pas là, mais est bien présent un homme déçu, un homme qui a donc vu l'élimination la semaine dernière de l'équipe de France en la personne de Clément. Oui.
Oui. Salut à Florian, salut à tous. Effectivement, je suis un peu déçu. On va revenir là-dessus. En tout cas, les vacances se passent bien. On peut se reposer. Et là, la reprise commence depuis cette semaine. Donc, je suis allé courir hier et puis un peu de courbature, mais ça va.
Ouais, on va espérer que tu fasses une bonne saison l'année prochaine.
J'espère bien.
Enfin, l'année prochaine, dans quelques mois maintenant. Oui. On est vraiment, ça va être très rapide pour toi. En tout cas, La reprise est faite déjà. À la régie ce soir, Mathéo, comment vas-tu, Mathéo?
Bonsoir Flo, bonsoir à tous. Ça va très très bien. Écoute, des petites galères de régie. Écoute, on fait comme on peut.
Exactement.
Voilà. On fait avec les moyens du bord et les connaissances qu'on a. Mais sinon, écoute, très très bien. Le sport va bien en ces vacances et ça fait très plaisir.
Exactement. Parce que l'actualité est riche.
Exactement.
Soir. On l'a dit, on vient de le dévoiler dans le sommaire. Et on va commencer par les infos locales. Je sais que tu auras des infos transferts à donner dans quelques instants aussi. Mathéo, du côté des infos locales, nous avons une grosse performance. On va l'évoquer dans quelques instants, mais avant toute chose, on va parler du SCO Rugby qui sont venus il y a 15 jours pour nous parler un peu de la saison qu'ils ont effectuée donc cette année. Mais le SCO Rugby donc connaît déjà ses adversaires de l'année prochaine, enfin de la saison prochaine. Et elle change de zone géographique, puisque avant c'était des équipes de Vendée ou de Loire-Atlantique. Là, on va plus vers l'est de la France, enfin l'est du département et de la région, avec donc La Ferté-Bernard, Le Mans, Sancerre, Blois, Vendôme, Pithiviers, Bagneux, Sucy-en-Brie et Vitry-sur-Seine, donc des équipes donc de l'Île-de-France pour la Fédérale 3. Et le SCO Rugby l'année prochaine. On va parler aussi de Adrien Hunou qui a été écarté du groupe pro. Voilà, on lui a montré un peu le fait de peut-être trouver un point de chute l'année prochaine pour pouvoir avoir du temps de jeu. Ça sera pas forcément du côté du SCO. Clément Sanchez, Langevin, je sais que tu avais envie d'en parler aussi toi Clément, ouais. Parce que il va devenir stagiaire dans l'équipe Total Energy. On parle de cyclisme bien évidemment. Il était déjà présent dans l'équipe de développement donc la petite sœur Vendée U.
C'est ça.
Voilà, il va passer maintenant chez les pros pour quelques mois.
Ouais. Clément Sanchez que je connais bien puisque il habite déjà dans ma ville à Avrier, ouais. Et il a été dans mon collège et au lycée et sa sœur à mon âge, donc il se trouve que j'ai fait indirectement des courses avec lui, donc voilà, je suis depuis maintenant 2 ans à peu près toutes ses courses et donc je pense que c'est un aboutissement pour son début de carrière de faire ce stage avec les pros et donc de pourquoi pas signer pour l'année prochaine son premier contrat professionnel.
Seulement 18 ans, donc c'est assez rare. Ça montre aussi la qualité du coureur,
oui, hein,
parce que
ça.
Pour avoir signé un contrat stagiaire, on va le rappeler quand même. Donc pendant quelques mois, ça montre aussi que les résultats sont là et qu'ils font confiance en Clément Sanchez. Et la grosse information locale, c'est quand même, on va en parler quelques instants. Vendredi soir à Monaco, lors du meeting Hercules. Amandine Bourassier qui devient la deuxième plus grosse performance sur 400 mètres derrière Marie-Josée Pérec. Donc on parle de performance française bien évidemment, suite à son chrono de Monaco. 50 secondes et 43, dixième, c'est vraiment une performance incroyable qu'elle a réalisée donc en principauté. Un chrono qui lui aurait permis de faire les Jeux Olympiques, mais malheureusement à 10 jours près, le rêve olympique, enfin en tout cas en individuel, ne pourra pas se faire pour Amandine Brossier.
Après, elle est quand même assez contente d'avoir réussi ce chrono puisque elle avait besoin de cette confiance qu'elle avait perdue maintenant depuis pratiquement un an, puisque cette saison elle a eu du mal à sortir des bons chronos, et sortir ce chrono du coup au meeting de Monaco, je pense que ça lui a fait du bien, et elle va être en pleine confiance du coup pour le relais mixte et le relais féminin, ouais, pour les Jeux Olympiques.
Mathéo, est-ce que tu veux réagir sur cette performance?
Moi je trouve que c'est incroyable l'état d'esprit des sportifs, ils sont dans un autre univers que nous, hein. Très clairement on pourrait se dire qu'elle pourrait être vraiment au fond du trou et que ça pourrait être un reflet sportif clair, ouais, avec sa non-qualification au JO, et puis pas du tout, elle nous lâche une performance assez impressionnante. Voilà, moi je suis fier d'avoir des gens comme ça dans mon secteur, dans ma zone,
département, ouais,
à Angers, donc bravo à elle.
C'est dommage, hein. Elle aurait pu avoir un génération d'or donné là avec ce temps, cette performance incroyable qu'elle a réalisée. Et en parlant de génération d'or, on va quand même parler du taulier qui vient d'arriver dans l'émission. Cédric, comment vas-tu?
Eh ben écoute, ça va plutôt bien, hein, malgré les difficultés pour venir depuis le centre-ville.
Ouais.
Merci les restrictions des bus et des trams pendant les vacances.
Et pourtant, il n'y a pas les Jeux Olympiques organisés à Angers.
Non, c'est aussi compliqué de se déplacer.
Bon, est-ce que tu as suivi un peu à distance cette performance de Amandine Bourassier vendredi soir?
Alors écoute, je l'ai appris quand on a fait le conducteur. Ouais. Mais
Ah non, c'est moi. Pardon.
C'est pas grave.
Autant pour moi.
Petit souci de casque.
Ouais, de casque pour Clément, c'est pas grave.
Mais ouais, j'ai appris donc ça. Bon, j'ai envie de dire, ben merci les sélections qui se basent que sur des stats à un moment donné. Si on doit juger toute sa saison, elle a quand même été toujours là où on l'attendait. Malgré quelques passages un petit peu vides, mais je pense qu'elle avait le niveau pour y aller. Je pense qu'il y a un moment.
Après, c'est... même son record personnel, il n'était pas en dessous des minima, c'était un peu ça le problème. Mais
bah, oui, en faisant ce chrono, elle a pris. Les minima, ça ne veut rien dire.
Il y avait deux façons de se qualifier pour les Jeux Olympiques. Il y avait les minima, donc oui. Là, elle les a fait donc avec 12 jours d'écart, bien évidemment. Oui. Mais il y avait aussi le ranking. Et le ranking, il prenait les 32 meilleurs sur 400 mètres, elle était 38e. Et sa performance lors des championnats de France ne lui permettait même pas de rentrer encore dans cette phase de ranking.
Et là, après, ce ranking, il se base sur quoi?
Sur ses performances à l'année.
Ouais. Mais française exclusivement?
Non.
Voilà.
Mondiale.
Voilà.
Ouais.
Donc, c'est un peu débile ces quotas-là qui sont basés voilà, sur le ranking mondial, puisque bah, au final, ceux qui étaient devant, ils ont l'aval de leur fédération.
Oui, bien sûr.
Logiquement, ils ont dû faire aussi les minima. Et après, je sais pas réellement comment ça se passe dans les autres pays.
Les minima sont donnés en fait par la Fédération internationale d'athlétisme, et c'est après en fonction de ces minima là qui étaient qualifiés voilà, ou non pour les Jeux.
Je trouve que c'est un peu le côté déviant du sport depuis un moment. Dans beaucoup de sports, c'est stats.
Eh oui,
et c'est plus la performance pure. Tu peux avoir un champion de France qui peut ne pas aller. Enfin, je prends l'exemple de la France, hein, mais ça pourrait être dans n'importe quel pays. Ouais. Tu peux être champion de ton pays et ne pas faire les JO ou même les mondiaux. Enfin,
bah, il l'a fait quand même au final.
Alors, regarde le parfait exemple. Même bon, il n'a pas été champion de France de sa discipline, mais Renaud Lavillenie.
Oui, voilà.
On parle d'un champion olympique, voilà, qui donc ne sera pas aux Jeux parce que. Mais oui, mais
après c'est un peu différent.
Voilà, oui, ce que je vais dire, son cas, bon.
C'est différent.
On
certes,
on est sur une fin de carrière quand
oui,
on voit
moi
le.
Moi aussi,
le,
mériterait le... plus que Lavillenie pour moi d'aller aux JO. Si on fait le pour et le contre.
Oui, bien sûr.
Si on devait, pour sa carrière, oui, mais pour la
non,
forme
oui,
du moment.
Oui, c'est ça.
Quand on voit maintenant le niveau mondial.
Bah oui.
Voilà, bien
et
sûr.
Et le géant qui domine la discipline. Hélas, pour lui, ses heures de gloire sont.
Sont un peu derrière.
Bon. C'est derrière. Mais voilà. Donc, en tout cas, c'est une belle performance. Faut espérer que ça va la motiver pour la saison prochaine. Mm-hmm. Voilà, bon, l'année prochaine, on aura encore des championnats d'Europe.
Championnat du monde.
Du monde, voilà. À voir. Et après, est-ce que ça peut la booster sur son 400 mètres par équipe?
Bon,
bah, c'est ce qu'elle a dit. Hein.
Et voilà, ouais,
elle
c'est
a
ça.
Dit qu'elle,
c'est...
Oui, de toute façon,
c'est
sûr. Plein de confiance et qu'elle était vraiment, du coup, prête.
C'est ça, mais je pense.
Il y a un coup à faire, de toute façon, dans ces relais. De
oui,
façon,
je pense
tout,
que
c'est,
oui.
C'est toujours une discipline un peu à part entière, en plus, sur le, dans l'athlé. Voilà, il y a des trucs à faire, même si, attention, le, le relais en Europe est dominé par les Pays-Bas. Oui, sur les 400 mètres, c'est vraiment quelque chose.
Ouais, on a vu des équipes de France au JO se transcender. Donc, je pense pour elle, le truc, c'est surtout d'enlever de sa tête au moment où elle va courir par équipe le fait que peut-être elle aurait pu courir en individuel. Mmh. Et je pense que si elle arrive à se libérer de ça, normalement, les performances devraient suivre, en tout cas, le bon niveau.
Moi, je pense qu'elle arrivera à se libérer parce que là, c'était un chrono quand même qui était inespéré et qui est tombé un peu, je vais pas dire par miracle parce qu'il y a le travail, tout ça, mais c'est tombé un peu, c'est sorti de nulle part au vu des chronos de cette saison.
Justement, c'est peut-être l'aspect mental.
Oui,
elle savait qu'elle était libérée. Et peut-être, justement, c'est ça. Elle peut peut-être s'appuyer là-dessus.
Et elle fait cette course-là, juste pour terminer le débat à Amandine Broissier, en sachant qu'elle est inscrite sur cette course que la veille. Elle apprend ça le jeudi à 14h. Elle prend le train, puis après l'avion pour aller jusqu'à Monaco et parce qu'elle sait qu'il y a un couloir qui s'est libéré la veille, quoi. Donc, c'est vraiment une performance qui sort avec une histoire un peu incroyable à raconter dans quelques années. En tout cas, elle est la deuxième plus rapide sur la distance derrière Marie-José Pérec. Ça pose quelque chose. Ouais. Et en tout cas, elle prend un billet pour l'année prochaine pour les générations d'or, Cédric. Hein. Ça, c'est sûr et certain avec cette performance.
À voir, parce que les générations d'or, c'est sur la saison qui va venir.
Bon, mais
en tout cas, ça pourra peser dans la balance pour la, puisque de toute façon, les générations d'or commencent à partir du moment où on les a élus.
Oui.
Et en tout cas, voilà, oui, ça pourrait être un plus pour elle.
En tout cas, ouais.
Mais en tout cas, voilà, non, c'est intéressant. Je pense que si la Fédé nous écoute, vous faites pareil que à Monaco. Vous la prenez à la dernière minute.
Ouais.
Et puis là, ça a l'air de marcher, ça a l'air de faire du déclic. Bon, ça va être plus dur si vous qualifiez pour la finale, elle sera déjà au courant, mais ouais. Trouvez des astuces.
Bon, en tout cas, les Jeux Olympiques, c'est dans 10 jours et ça sera forcément aussi à suivre sur Radio G avec Génération Sport qui sera les mardis et les samedis, le samedi de 19h à 21h pendant les Jeux Olympiques pour vivre en direct donc ces jeux, pour commenter ou même pour analyser un peu et inviter des personnes du sport en juin pour débriefer un peu ces jeux, c'est l'objectif.
3 heures de couverture sur la semaine, puisqu'on gardera toujours le mardi de 20h à 21h.
Exactement. Avant de parler des droits télé, on va évoquer un peu la part du mercato avec toi, Mathéo, puisque tu nous as un peu préparé et un peu dégoté un peu les informations transfert du moment.
Alors, oui, combien t'as déboursé de ta poche?
Eh ben alors là, je dirais qu'on en vrai, on serait autour des 300 millions de ce que je vois. C'est pas énorme parce que j'ai une dizaine de transferts. En fait, c'est des transferts qui m'intéressent plus qu'autre chose, des transferts à suivre, on va dire. Pour moi, c'est assez clair et net. C'est un truc que j'ai fait vite fait tout à l'heure. Voilà, je m'en cache pas, le métier de journaliste totalement assumé. On commence avec Willy Kambuala de Manchester United, pour ceux qui connaissent, défenseur très très solide qu'on a un petit peu vu en sortie de banc cette saison. Très intéressant, qui va à Villarreal pour seulement 10 millions, c'est peu. Moi je suis assez étonné, franchement, quand on sait qu'en plus Varane quitte le poste, il n'y avait personne derrière pour les remplacer pour l'instant, avec l'arrivée d'Ino, c'est assez flou le mercato à Manchester. Donc bon, voilà, et justement on parle de Varane, pourquoi pas parler de Com. Hyper intéressant cette période de mercato pour Com, puisque on parle de Varane qui devrait arriver libre, il n'ira pas à Lens vraisemblablement, et il devrait aussi connaître l'arrivée de Paulo Lopez, le gardien de Marseille. Donc voilà, des renforts d'expérience assez intéressants. On essaie de se construire une dream team un petit peu à la LA Galaxy en 2017-2018, voilà, si vous
Pépé Reina,
un petit peu plus Pépé Reina, oui, c'est vrai que j'ai vu aussi, et puis il me semble qu'il y a Bellotti qui est venu aussi.
Ouais.
Donc bref, voilà, hyper intéressant à ce niveau-là. J'ai aussi pris mes petites thèses sur ce recrutement, Renato Veiga. Voilà, je pense que c'est pas un nom qui vous parle grandement. Joueur de balle, joueur portugais de balle qui arrive à Chelsea, 20 ans, milieu défensif, très polyvalent, il peut jouer sur tous les postes de la défense quasiment, sauf latéral droit. Donc ça a été un joueur important de la saison de balle qui a pas été très très bonne, qu'on se le cache pas. Voilà, il arrive pour 13 millions d'euros. À voir ce que ça donne. Le milieu de Chelsea est bien fourni, mais avec un petit peu de chance, il se révélera. Mon transfert un petit peu à suivre de cette saison, c'est Mohamed Amoura à Wolfsburg. ça peut-être que ça vous parle un petit peu plus, Mohamed Amoura, joueur de l'Union Saint-Gilloise, attaquant algérien, qui a fait une énorme saison, 23 buts, 8 passes décisives en Belgique, donc énorme saison, qui arrive en prêt avec option d'achat, donc le montant de l'option d'achat a pas filtré, mais c'est vraiment un joueur à suivre. Je pense que il peut métamorphoser cette équipe de Wolfsburg, surtout en Bundesliga. Et puis pour rester en Bundes, j'ai mis les transferts du Bayern de Munich. Voilà, et plus globalement, bah, les gros joueurs de club moyen, alors entre guillemets, parce que j'ai pris des exemples, entre guillemets club moyen de PL. Donc du côté du Bayern, on a vu Michael Olise, l'attaquant français qui arrive pour 60 millions, ça c'est pareil, je pense que c'est top 1 transfert à suivre incontestablement. Et puis Palinha, le portugais aussi qui arrive pour 60 millions, donc c'est intéressant. Et justement, faire ce parallèle avec, ça y est, les gros clubs d'Europe vont enfin piocher chez les clubs moyens de PL. On a eu une explosion énorme des trois télés, des budgets de clubs, donc on a sorti des gros joueurs dans des clubs qui jouent le bas de tableau, le milieu de tableau au mieux en première ligue. Et donc, enfin, les gros clubs vont les chercher. Alors, dans un registre similaire, mais pas trop, je sais que je vais me faire des ennemis en disant ça, mais Aston Villa. Aston Villa qui est dans le très très haut du classement, mais c'est un habitué plus du milieu de tableau à l'origine. Donc, Douglas Luiz à la Juve, ça aussi c'est un transfert hyper intéressant. J'ai mis aussi Crisancio Somerville, là aussi, transfert qui affole un petit peu le marché. On a eu beaucoup de clubs de PL qui se sont positionnés sur lui. On a eu aussi le PSG pour 20 millions. C'est un joueur qui sort d'une saison avec 20 buts et 9 passes dé, si je dis pas de bêtises, à Leeds. Donc très intéressant, un ailier néerlandais très puissant, très moderne. Là-dessus, je pense que c'est le joueur typique à 20 ans qui peut exploser rapidement. Et puis pour finir, hier, qui est arrivé? Quelle était l'info mercato hier? Miko Tadze à Lyon. Oui. Voilà.
J'ai pensé à toi, le roi Georges, parce que du coup, tu en as parlé il y a un mois avant l'Euro.
C'est magnifique.
Et il était annoncé à Monaco, quasiment signé à Monaco.
C'est ça. Le rebondissement, la dernière minute.
Exactement. On a eu le Here We Go il y a 3 jours de Fabrizio Romano. Tout était réglé, visite médicale, tout ça. Enfin, elle n'avait pas été faite, mais tout était planifié, en tout cas du côté de Monaco. Et puis finalement, rebondissement, parce que Lyon travaille le sujet. En fond depuis plusieurs semaines, de ce que j'ai cru voir. Donc assez intéressant. Et puis ils se sont mis d'accord avec le club hier soir en fin de soirée. Il arrive normalement demain pour passer sa visite médicale et tout devrait être bouclé demain dans la journée. Donc voilà, un super transfert, un joueur qui reste en Ligue 1, qui ne connaîtra pas la Ligue des Champions du coup, pour mon plus grand malheur, ouais. Mais qui reste un des top transferts. Voilà, c'est à peu près ce que j'ai noté sur ce premier mois de mercato. Des transferts à suivre plus que les gros transferts, parce qu'il y en a plein. C'est juste des joueurs qui changent de club, qui changent pas forcément de d'effectif en tant que tel. C'est la même forme, le même jeu produit, les mêmes gros clubs, donc c'est pas intéressant. J'aurais pu parler d'Mbappé, mais bon.
Voilà, présentation aujourd'hui d'ailleurs pour Mbappé au niveau du Real Madrid.
Exactement.
Dans un Santiago Bernabéu.
Ça a dépoussiéré les coupes, hein, pour l'occasion.
Complètement plein à craquer pour l'arrivée de Mbappé au Real Madrid.
Très classe comme présentation.
Ouais, c'était classe.
Voilà. On nous préparait soi-disant un show à l'américaine. Finalement, ça a été sobre. Franchement,
j'ai trouvé ça un petit peu orgueilleux quand même de leur part de regarder tous les beaux trophées qu'on a.
Ouais, mais ça c'est le Real, c'est toujours.
C'est pour présenter le nouveau entre guillemets Ronaldo, c'est comme ça qu'ils veulent le présenter. Donc c'est logique de montrer un petit peu les trophées.
En tout cas, s'il y a des supporters parisiens qui nous écoutent, je pense que n'allez pas écouter la conférence de presse de Mbappé. Il y a plein de messages. Je pense que ça peut faire mal au cœur à beaucoup de supporters.
J'en ai discuté déjà avec des supporters.
Bon, il s'y attendait aussi, je pense.
On compare avec Eden Hazard.
On verra bien dans les prochains mois, en tout cas. Juste un petit message à passer. Si vous êtes de la communauté géorgienne, ramenez un maillot de Miko Tadze pour Matteo. S'il y a quelqu'un qui nous écoute de cette communauté.
S'il vous plaît.
Voilà. Parce que Matteo fait quand même un pressing pour la communauté géorgienne depuis quelques semaines maintenant.
Et je vous aime, mes géorgiens.
Voilà. Exactement. Donc, ramenez un maillot de Miko Tadze, de Metz, de Lyon,
ce que vous voulez. Celui de Lyon, il sera chez moi dans 2 semaines, normalement.
Voilà.
Attends, on sait jamais, hein, ça peut encore changer, hein, ça se trouve Monaco ce soir.
Il est formé à Lyon, il est né à Lyon, normalement. On se mouille pas en disant qu'il
est. Par contre, c'est vrai que j'ai toujours un peu de mal avec ce genre de transfert où t'as tout qui est quasiment fait dans un club et. Là, clairement, je pense que c'est la petite virgule qui a fait tout changer. Et je trouve ça, c'est la loi du marché, hein, mais je trouve ça toujours dommage. Et généralement, c'est toujours compliqué pour les joueurs qui sont transférés un petit peu comme ça. Donc
ça dépend. On peut penser à Thauvin à Marseille, ça s'est bien passé.
Bon. Ça dépend des fois.
On verra bien.
Globalement, non, mais en tout cas, on garde quand même une image plutôt positive. Mais oui, après, généralement, c'était des joueurs qui avaient des... qui avait un caractère assumé aussi, un gros ego, qui avec une proposition en phase 2 se sont dit bon bah voilà, je fonce et je respecte pas le club, donc là c'est un peu une histoire différente, je pense et j'espère.
Ouais, ouais,
je
on verra bien.
Je pense qu'on pourra en reparler de ce transfert là aussi avec les droits de la Ligue 1.
Oui. Et ben on va faire tout de suite le lien avec les droits de la Ligue 1, puisque les droits ont été attribués, on va quand même penser à nos auditeurs, parce que peut-être que l'endroit le plus facile pour suivre la Ligue 1 l'année prochaine sera Radio G, parce que c'est totalement gratuit. Hein, voilà, vous pouvez écouter chaque mardi soir de 20h à 21h, vous aurez au moins les informations foot du SCO, c'est sûr, avec un peu parfois d'autres clubs dans l'émission à débattre. Mais voilà, les droits ont été attribués donc à DAZN, c'est comme ça qu'on le dit, ça s'écrit D-A-Z-N, mais c'est DAZN. Pour un peu plus de 400 millions d'euros.
C'est 400,
oui.
400 millions pour DAZN.
Voilà, plus les 100 millions de Bein Sport, plus
un match.
Mais attention, ils sont pas d'accord. On va le dire aussi, parce que DAZN et Bein Sport maintenant se battent pour ce match bien spécifique maintenant. Ah oui, oui. Et donc pour suivre ça l'année prochaine, il faudra débourser 49€, 34€ pour DAZN, 15€ pour Bein Sport. La question que je vous pose, messieurs, pour l'instant, alors attention, hein, il peut y avoir aussi un éventuel prix un peu plus faible si Canal+ dessert les deux chaînes.
Apparemment, Canal, bizarrement, se serait remis en cause et aurait renégocié avec DAZN.
Oui. Bah, et c'est malin de leur part.
Pourrait proposer une offre. Alors, ce serait l'évolution du Canal+ Sport.
Oui.
Mais on resterait à quasiment 50€.
Bon, ouais, non, mais
donc au final
c'est malin de la part de Canal+, parce qu'au final plaisible. ils font pas une offre directe, et c'est pas eux qui payent les droits, mais ils vont quand même récupérer des personnes qui vont s'abonner à leur chaîne sans se donc c'est très malin de leur part.
Ils auront l'argument, c'est que vous n'avez pas que le sport, vous aurez Canal+ de base
et parce que là c'est vraiment que pour la Ligue 1 en fait, que
là c'est exactement DAZN et Bein Sport pour 49€, c'est que de la Ligue 1. Alors après il y aura DAZN là-dedans, ils vont te proposer aussi du foot féminin, la Ligue des Champions féminines.
Ouais. Voilà. Et encore on sait pas trop, l'offre en France pour l'instant elle reste floue.
Exactement, c'est ce que j'allais dire. Qu'est-ce que vous pensez de cet accord, messieurs? On va commencer par toi, Clément.
Bon, c'est beaucoup trop cher.
Toi qui es censé, si on écoute le président de Lyon, tu es censé être la cible qui consomme le sport de cette façon-là.
Non, je vais pas dépenser, déjà que j'ai pas beaucoup, enfin, j'ai pratiquement pas d'argent,
Sans parler d'argent, hein, mais en tout cas, qui va consommer ça plus facilement, parce qu'il faut rappeler, c'est que DAZN, pour l'instant, n'a pas une chaîne télé.
Bah oui, c'est ça
diffusable
qui est compliqué
sur une box.
Aussi.
Non, il faut passer soit par un téléphone,
sauf que
ou un PC.
Canal,
c'est plus ta génération. Oui. Qui va consommer plus facilement des contenus sur tablette, ouais, ou téléphone.
Mais bon, le problème, c'est que Canal et tout, ils sont aussi sur les ordinateurs et sur les téléphones maintenant.
Oui,
donc
mais ils sont aussi, enfin, ils restent historiquement sur ta box. Si tu veux, tu peux regarder ton match de foot, voilà.
Mais donc, c'est pas vraiment un argument valable qu'ils
ont mis en avant.
Hein. Bah oui, parce que on peut aussi regarder les matchs sur Canal et sur Bein, sur notre ordi, sur notre téléphone ou sur notre tablette. Donc,
bien sûr.
Je trouve ça vraiment démentiel. J'ai l'impression que le foot, c'est de plus en plus une histoire d'argent, et ça m'attriste vraiment de voir ça, que on doit, pour regarder un match, parce qu'on peut pas regarder tous les matchs en même temps, par semaine, dépenser 49€, ça devient beaucoup trop cher. Et
Mathéo, on parle de génération, t'es pas si loin de Clément aussi. Hein, donc
exactement. Bah moi, j'aimerais rebondir sur ce que t'as dit, Clément. Moi, je dirais tout simplement que c'est plus le déclin du football, tout simplement.
Oui, bah oui,
purement et simplement, presque la mort. Enfin,
j'ai voulu faire parler avec Laurent, mais bon.
Bah oui, exactement. On en arrive à un cas où aujourd'hui il y a 50-60 matchs par saison pour des joueurs. On arrive en fin de saison, on a l'Euro, on a bien vu ce que ça a donné aujourd'hui, des piètres performances, des sélections qui jouent plus comme des sélections, qui jouent comme des clubs, sauf que des joueurs qui se voient trois fois dans l'année, bah ça forme pas un vrai collectif, donc c'est compliqué. Et derrière, on essaie de te vendre ce produit-là, qui est quand même pas excellent, pour 50€ par mois. Mais qui paye 50€ par mois pour voir des matchs de Ligue 1? Personne. Concrètement, je ne sais pas qui va acheter cet abonnement. Avec toutes les propositions qu'on a à côté, on peut aller, ne le faites pas, mais on peut aller sur Telegram, on peut aller sur Twitter, il y a plein de...
Il y a l'IPTV, hein, faut pas se cacher.
L'IPTV, hein, voilà, aussi, eux, ils vont se régaler l'année prochaine, parce que 50€, c'est pas possible.
C'est
C'est pas possible.
50 euros, il y a des gens qui vont payer ça à l'année.
C'est, voilà, c'est ça. C'est
il y en a qui vont payer 50 euros à l'année pour pouvoir voir du football sur l'IPTV et d'autres qui vont payer 50 euros par mois. C'est sûr que...
Il y a 5 ans, tu payais 30 pour tous les championnats sur Bein.
Ouais.
Aujourd'hui, on en est rendu à payer 50 pour la Ligue 1. Je sais plus combien ça fait en tout.
Et là, ça fait 100 euros pour tout. Tu parles de Ligue des Champions, Clément, t'as raison. C'est vrai que là, c'est 50 euros que pour la Ligue 1. Mais si tu veux voir la Ligue des Champions sur Canal+, et que pour l'instant,
c'est Canal+, sport, plus.
Voilà.
Donc, on sera sur du, juste pour actuellement, on est à peu près sur du, je dirais entre 35 et quasiment, allez, grand maximum, 50 euros, on va dire, sur l'offre actuelle Canal, pour juste regarder la Ligue des Champions.
Ouais.
Donc, en admettant que le bouquet ne se fasse pas sur Canal, et qu'on prend Bing plus Daz, on arriverait à du, on va dire sur un mois où il y a de la Ligue des Champions plus, on serait à 100 euros. À peu près de budget pour regarder.
Entre 80 et 100 euros, ouais.
On va dire.
Il me semble que pour Canal+, tu peux prendre que la formule sport, et donc du coup, elle serait un peu moins chère que les 50.
C'est pour ça, c'est.
Mais tout dépend entre 80 et 100.
Ça dépend de ton âge, enfin.
Exactement, c'est ça. Après, c'est sûr que pour des gens de notre génération qui sont avec peut-être donc une femme et des enfants, c'est sûr que tu te retrouves. Parce que tu vas pas vendre ça à ta compagne en disant voilà, je vais prendre que le bouquet sport, tu vas prendre le bouquet un peu plus familial avec les chaînes pour enfants ou même les chaînes de cinéma pour quand même faire passer la pilule à madame ou à votre compagnon, parce que je dis madame mais ça peut être votre compagnon aussi, monsieur, voilà. Et tu te retrouves donc avec un prix qui va augmenter, c'est sûr. Et donc est-ce qu'on prendrait pas aussi les spectateurs ou les supporters français pour des vaches à lait, parce qu'au final on se retrouve à... C'est toujours le consommateur qui va payer un peu les erreurs de ces clubs et de ces choix financiers il y a quelques mois et quelques années.
Je pense que t'es comme moi, t'as connu l'époque Foot Plus, par exemple, à l'époque de CanalSat. Je sais plus si c'était disponible sur Canal, mais à l'époque, je crois qu'on payait une dizaine d'euros par mois.
C'était pas très cher.
En supplément, mais c'était un supplément.
Ouais.
Et on avait accès à tous les matchs de la Ligue 1, et on pouvait cibler l'équipe qu'on avait envie de voir.
Bien sûr.
Et en termes de prix, c'était un plus.
Oui, bien sûr.
Il y avait toujours sur Canal, deux matchs par soirée. C'était, si t'as vraiment envie de soutenir ton équipe, tu le payais, et ça passait crème. Après, on est passé sur Bing. Il a fallu prendre un abonnement supplémentaire. Ça restait encore correct.
C'est exactement, c'est passé un peu plus. Ça passait. Parce que Mathéo disait aussi, parce qu'il y avait tout.
Voilà.
Il y avait il y avait pas la première ligue, mais il y avait l'Italie, l'Espagne, l'Allemagne.
Et t'avais la Ligue des Champions. Il y avait la première ligue sur Bein.
Je crois pas de mémoire. Je crois que c'était Canal+ et RMC Sport.
Je sais. À l'époque, au tout début, je crois que c'était Bein. Enfin, Canal a eu longtemps aussi pas mal de. Mais quand ça a commencé à s'espacer.
Ah, peut-être.
Il me semble que j'ai cette image de Bein avec le logo
Barclays Premier League.
Et t'as acheté Bein, c'était trois chaînes. Et t'avais le foot, le basket, les sports américains. Enfin, il y avait beaucoup de choses. En fait, t'as acheté un pack sportif. T'étais à peu près une trentaine d'euros,
Il faut acheter tellement de chaînes maintenant. Canal pour voir le golf, Eurosport pour voir le vélo, le foot, c'est sur Bein.
Une vidéo qui s'y met aussi.
Avec le tennis, avec les matchs que tu dois payer en plus pour aller mettre ces chaînes.
Ensuite, moi je trouve que c'était pas si mauvais cette offre-là. C'était l'offre Amazon, où t'avais Ligue 1 plus Ligue 2.
Oui, c'est vrai que ça c'était.
Pour
25 ou un truc comme ça.
C'était moins de 20 euros.
C'était 14 plus 6, voilà, c'est 12 ça. Plus 6, mais ça reste
cher.
Moi, je trouvais déjà que c'était pas mal.
Bien sûr, oui.
Ça dépend de la consommation qu'on a du football français.
Exactement,
mais,
c'est ça.
Le problème, c'est qu'on se retrouve quand même avec des Nantes-Lorient à 21h ou à 15h, et t'as pas envie de voir ça, quoi.
Enfin, ça.
Concrètement, sauf pour les supporters, et je respecte franchement tous les supporters de Nantes-Lorient, les gens qui regardent ces matchs, mais... quand même, quand on est un consommateur irrégulier, on va pas se pencher sur ces matchs-là, et pourtant ils sont compris dans notre offre.
C'est ça, oui, mais ça c'est à toi si t'as envie d'y aller ou pas, tu vois.
Ouais, pour un prix comme ça, tu devrais avoir le choix. Comme c'était le cas à l'époque avec Bein Sport, où on pouvait aller sur de la Bundes, de la Liga, de la Serie A en même temps. Enfin, il y avait forcément un match qui pouvait nous intéresser. Aujourd'hui, malheureusement, si on n'achète pas tout,
c'était parce que t'avais trois chaînes.
trois chaînes, mais c'est sûr.
Tu avais trois chaînes principales des choses et tu avais des chaînes bookées un peu
ça.
À côté,
après,
les max.
Oui, oui. Enfin, les max. Il y a toujours, mais par exemple, là, pendant Wimbledon, on pouvait voir des matchs dans le e-sport. Mais en soi, je trouve que ce que proposait Amazon, tu vois, Ligue 1 plus Ligue 2, pour, on va dire, allez, on va dire 20 euros pour faire un chiffre rond, ça te faisait 10-10 pour les deux.
Ouais.
Pour, 4 matchs par mois, si on divise le coût, on n'était pas non plus à un coût excessif.
5 euros le match, quoi.
Voilà. Après, il y a l'Amazon Prime que tu prends sur un an, mais bon, tu payes en gros 45-50 euros, que tu peux très vite amortir parce qu'il y a les avantages pour la livraison, pour d'autres choses. En soi, je trouvais que c'était une bonne formule. Et en termes de qualité aussi de produits et de production.
Oui, ce qu'a fait Amazon avec le foot et la Ligue 1.
C'était intéressant.
C'était intéressant dans ce qu'ils ramenaient comme produit. On va dire.
Ça.
Ils ont un peu dépoussiéré la chose.
Après le côté Media Pro qui a plombé le truc, enfin.
Ouais.
Mais je trouvais que c'était un bon compromis. Parce que j'ai pas compris, moi, pourquoi ils ont pas réessayé, enfin, de.
Ce que je ne comprends pas, Cédric, mais les garçons aussi, c'est qu'à un moment donné, tu fais un peu l'historique des prix et tout. Comment ils peuvent croire que les gens vont s'abonner à cette chaîne-là, donc 50 euros par mois, là, alors qu'à 20 euros, ça s'abonnait pas. Amazon Prime, si Amazon n'y est pas retourné, c'est parce qu'au niveau des droits et au niveau des abonnements, c'était pas au rendez-vous.
Aussi peut-être que c'est parce que les droits ils coûtent trop cher justement. Enfin, payer 400 millions d'euros pour avoir la Ligue 1, c'est que ça coûte trop cher. Du coup, ils sont obligés d'augmenter les prix aussi.
Bon. Mais c'est pas ça. C'est que les droits de la Ligue 1 sont surcotés.
Ça c'est la faute de la Ligue. On le sait depuis le début. La Brune, il fait un travail pittoresque. C'est une horreur.
Il a fait n'importe quoi.
C'est une horreur à tous les étages. Déjà l'année dernière, c'était une honte quand on voyait au niveau de ce qui se passait en interne pour l'arbitrage, pour plein de choses, des événements. Je pense à ce OM Lyon où il y a rien eu, alors que c'était une honte ce qui s'est produit. Et même si des supporters ont pris, je crois, un peu de prison avec sursis, c'est léger, quoi. C'est beaucoup trop léger pour ce que c'est. Moi, je me pose aussi des questions par rapport au club. Quand t'as un club qui monte en Ligue 1, que tu dois faire ton budget, on arrive à plus de la moitié du mercato, presque.
Oui, bien sûr.
Comment tu le fais?
Angers va toucher entre 8 et 10 millions, là.
C'est rien aujourd'hui.
Et encore, je pense que c'est une fourchette,
Sachant qu'il y a des clubs comme Montpellier, c'est 50% de leur budget.
Ah oui,
50% du budget de Montpellier, ils vont avoir
le
score,
ça soit la même chose, parce que tu vois, le maillot du score a été dévoilé dans la semaine, il n'y a pas encore de sponsor officiel du maillot. C'est l'école noir et blanc qui est dessus encore, donc la fondation du SCO.
Quand ils révèlent les maillots, généralement les.
Généralement, t'as les sponsors, même pour suivre Lens et même toi pour Lyon. Ou...
Après, c'est parce que c'est des sponsors étalés sur plusieurs années.
J'ai souvenir que généralement, quand tu présentes le maillot, il est toujours vierge depuis quelques années.
Mais c'est important pour eux d'avoir ces droits télé. Là, entre 8 et 10 millions, c'est rien du tout dans un club.
Surtout aujourd'hui, tu reviens, je pense, 6-7 ans en arrière, c'est déjà rien du tout pour un club de Ligue 1.
Et là, on parlait de prix d'abonnement. Enfin, le prix d'abonnement du SCO est moins cher que le prix d'abonnement que regarder le foot à la télé. Donc, en fait, c'est plus rentable d'aller au stade que de regarder le match de foot à la télé. Donc, l'abonnement le plus cher du SCO, il est moins cher que l'abonnement à l'année de d'Azone et Beansport.
Après,
t'as la moitié des matchs.
Oui.
T'as la moitié des matchs
Ça passe
quelque part si tu veux dans la balance.
Mais même en prenant les matchs à l'extérieur, je pense que tu reviens.
Après, on sait que c'est comme partout. Si tu veux, des fois, si on prend quelqu'un qui va y aller de temps en temps, il va aller au stade, il va se faire plaisir. Je pense que ça lui coûtera moins cher d'aller au stade que de se dire, tiens, ce mois-ci, il y a tel match.
Je prends l'abonnement.
Ouais. Parce qu'on sait que, hélas, et ça fait partie de l'ensemble, c'est que pourquoi tu payes plus cher un Angers-Paris qu'un Angers-Lorient?
Parce que c'est moins bien.
Parce que t'as les stars en face.
Parce que tu payes le côté bling-bling.
Mmh.
Et déjà,
c'est dans tous les sports.
Ouais. Mmh. Ah, ça dépend.
C'est dans tous les sports.
Globalement, les sports.
Pour
suivre la NBA, ça sera toujours plus cher quand tu vas recevoir les Lakers en ce moment. Que quand tu vas recevoir un match entre je sais pas
les Raptors,
les Raptors et Portland, voilà.
Le modèle américain il est quand même spécial parce que bon,
Ouais, mais et je pense qu'il y a un moment donné, il va falloir s'y pencher parce que tu vois ce que fait. Bon après, c'est deux offres comparables. Après, on va se quitter là-dessus parce qu'après, il faut quand même qu'on enchaîne sur l'euro. Mais quand tu vois ce que fait l'abonnement NBA. C'est 18 euros, t'as des matchs tout le temps. Alors tu tapes aussi des matchs parfois de
nul,
voilà. Clairement, qui sont pas regardables. Hein, je veux dire, il y a des trucs où tu. Mais c'est quand même, c'est moins de 20 euros l'année. Mais t'as le droit à tous les matchs de NBA, donc tous les soirs, à l'historique des matchs, à l'histoire des matchs de NBA. Enfin voilà, t'as plein de choses dedans.
Ouais, mais t'as une offre retour.
Et
comme
en fait,
pour la F1,
mais c'est ce qu'ils auraient dû faire cette année en fait. Alors bien sûr, mais donc là j'espère parce que là en gros DAZN c'est pour 2 ans. Hein, ils ont un contrat de 2 ans, c'est pas 5 ans. Donc j'espère que pendant les 2 ans, ils vont préparer quelque chose et préparer une chaîne. Parce que demain tu proposes à un fan de foot une chaîne avec la Ligue 1, la Ligue 2, et moi j'inclurais même le national parce que dedans t'as des joueurs intéressants et parfois t'as des joueurs de l'équipe de France de foot durant les dernières années.
Le national c'est gratuit pour l'instant.
Exactement, mais qu'ils le mettent là-dedans, mais qu'ils le mettent dedans.
Pas forcément.
Ensemble,
si on peut les avoir sur YouTube encore.
Oui, bien sûr.
Oui, mais voilà, mais il faut.
Mais si tu mets les trois dedans, avec la Coupe de France aussi dedans, à 15 euros par mois, avec des matchs de l'histoire un peu, tu veux trop faire un match à l'ancienne, avec du contenu, des documentaires dedans. Mais je pense demain t'as une tonne de personnes qui pourraient s'abonner.
Moi, je serais le premier à payer. C'est sûr.
À 15 euros par mois, je veux dire, clairement, je me dis, j'y vais. Voilà, tu consommes vraiment du match quand tu veux. Tu choisis ce que tu veux regarder. Mais
le problème, c'est que DAZN, c'est même pas une chaîne française et je pense que les investisseurs, malheureusement, ils sont même pas, ils sont même pas fans de la Ligue 1, tu vois.
Ouais, bien sûr.
Ils savent pas ce que vivent les supporters, tout ça. Ouais. Et je pense que il y a aussi le problème qui
est. Là, actuellement, DAZN en France, le modèle est très bizarre. C'est-à-dire que vous payez un abonnement d'à peu près une 20aine d'euros et vous allez avoir accès à certains événements dans cet abonnement, et on sait que par exemple tout ce qui est lié un peu on va dire, alors c'est pas l'UFC puisque c'est sur notre réseau, mais toutes les ligues un peu françaises ou européennes, c'est le système américain, ce qu'on appelle le pay-per-view.
Ouais, tu payes pour voir quoi,
et donc vous payez 20 plus quasiment 20 pour voir certains shows. Et pour avoir vu les versions françaises, en termes de qualité d'image, c'était pas forcément terrible. En termes de réalisation, pareil. Et là, le problème, c'est que c'est bien, ils ont pris une offre. Tant mieux. Ça veut dire que au moins, ça va être couvert. Mais avec qui et comment?
Oui, bien sûr.
Et ça, pour l'instant, c'est un peu le point noir. Bon. Moi, j'irais pas acheter DAZN comme ça. Me dire, oh, bah, c'est bon, j'ai la Ligue 1, j'ai envie de la regarder.
On aura l'occasion d'en reparler.
Qui va commenter et qui va réaliser ça? Enfin, c'est
de ces droits télé. De toute façon, qui va commenter le foot sur la Ligue 1, c'est tous ceux qui étaient sur Amazon. Hein. Tu vas les retrouver, hein, donc il y a pas de problème là-dessus. Hein.
C'est ça.
Tu vas retrouver les têtes habituelles. Mais pour finir, et clairement pour finir, il faut. Je pense que la Ligue 1 doit s'inspirer de la NBA ou en tout cas de comment ils ont fait la promotion de leur sport et de leur la visibilité qu'ils donnent. Tout marche beaucoup sur les réseaux sociaux. Et je vais te parler 2 secondes, Cédric, parce que toi qui es fan de catch et de la WWE, ce qu'ont fait la WWE avec leur network, avec leur propre chaîne, où ils diffusent leur view, leur PLE, leur événement, et les gens s'abonnent, et les gens ont
été... On est à 15 euros par mois.
Et mais t'as du documentaire.
C'est ça.
T'as des émissions,
on
t'as
les archives,
anciens...
on a tous les shows diffusés en direct avec 3 semaines de décalage, mais... Quelqu'un qui a envie juste de regarder comme ça, il peut le regarder. Il y a tous ces documentaires qui sont produits à côté. Ah, ça va disparaître plus ou moins, mais c'est en train d'aller et ça migre, en tout cas pour l'instant, aux États-Unis sur Netflix. Et quand on sait Netflix, la puissance qu'il a, si c'est inclus dans l'offre directe, mais c'est banger. C'est, mais... vous allez avoir aux États-Unis. En tout cas, on va prendre pour l'instant la base, c'est que vous allez avoir du divertissement, de films, de documentaires et du sport pour ça doit être 15 dollars, donc on doit être à peu près dans les mêmes prix
entre vers 18 euros,
voilà,
19 euros.
Donc vous aurez tous sur une même plateforme solide, et là c'est un peu le problème.
Mais la Ligue 1 aurait dû faire ça, mais le problème c'est qu'ils voulaient déliquider tout de suite, et donc du coup ils ont décidé de céder à DAZN
les prix de départ.
Exactement.
Sur tout ça on en a pas parlé, on est passé de
1 milliard
1 milliard pour la Ligue 1. D'accord.
C'était la promesse de Vincent Labrune.
Oui, voilà, belle promesse. Ouais. Voilà, bien tenue. Et puis après 600 millions, et voilà. À la fin 500 millions. Voilà.
Exactement.
On se retrouve avec ça.
Et avant qu'on fasse une transition sur le prochain sujet, Je vais faire un parallèle, c'est que on sait que pour l'instant le hockey était difficile à suivre en France, la Magnus tout ça. Et là, il y a une offre qui a été créée, qui va regrouper donc une partie du. Alors, il y aura trois offres, on va dire. Une offre dédiée à tout le hockey en dessous de la Magnus et une offre dédiée à la Magnus. Et en termes de prix, par exemple, si vous voulez juste regarder la Magnus sur une année, ça vous coûte 80 euros.
80 euros par an?
Bah pour l'année.
D'accord, mais c'est très intéressant.
Voilà. Et l'autre partie, on va dire, c'est ce qu'ils appellent Hockey France, donc c'est les ligues en dessous, plus les féminins, tout ça, c'est le même prix. Et si vous prenez les deux, c'est 100 euros à l'année.
Ouais, donc
ça fait du 15 euros par mois à peu
100
près.
100 euros à l'année. Bah non, ça fait même pas 15 euros par mois.
Alors je prends le tarif par mensuel qu'ils ont annoncé, tu vois. Okay. Après oui, quand tu prends l'offre à l'année, forcément ça coûte moins cher.
Oui, bien sûr.
Bon, la saison de Magnus, c'est quand même à peu près une trentaine de matchs aussi. Donc voilà, on peut faire un parallèle avec le foot en termes de nombre de diffusions, tout ça. Alors bien sûr, c'est moins médiatique encore, mais voilà, il y a des solutions viables. Bah, on peut étudier en tout cas avec les différents concurrents.
Les présidents de club ont 2 ans donc pour pouvoir réfléchir à tout ça et on verra d'ici 2 ans quel sera le résultat et voir s'il y a des clubs français qui auront fait faillite parce que c'est ce qui peut pendre des aussi à beaucoup de clubs. Là aussi il y avait des problèmes de droit TV et jusqu'à la dernière minute on savait pas sur quelle chaîne on allait regarder. C'était l'Euro 2024 qui s'est clôturé donc dimanche soir avec une victoire de l'Espagne. Victoire logique, on va le dire, parce que dans le jeu, c'était l'équipe qui a le plus régalé, qui a le plus proposé de beaux jeux. Mais un euro, ça a été long. Qu'est-ce que ça a été long de regarder l'euro jusqu'au bout, puisqu'il y avait quand même des matchs indigestes. Il n'y avait pas de Nantes-Lorient, mais il y a eu des matchs.
Un France-Portugal peut être l'équivalent, je pense. Quand on y réfléchit bien.
Un Lens-Lorient n'était pas plus intéressant.
Et ben, finalement, je pense que c'est possible.
Mathéo, ton regard sur cet euro 2024.
Décevant, très décevant, surtout quand on a vu les deux premières journées. Les deux premières journées étaient hyper intéressantes, on avait beaucoup de surprises. Moi, je garderai toujours en tête ce Roumanie-Ukraine, magnifique. Magnifique match, franchement, un des plus beaux de l'Euro. Non, les sélections, on peut dire que comme la Ligue, ils se sont un petit peu foutu de notre gueule à la fin. Alors, pour différentes raisons. On a des fédérations comme en France où c'est un petit peu compliqué en interne. On a d'autres fédérations où on avait des grandes stars, des joueurs qui ont joué, comme je l'ai dit tout à l'heure, 60 matchs à la saison qui arrivent complètement cramé à l'euro, et ça c'est pas normal, honnêtement. C'est une des grosses dérives du football moderne. Et puis on a des sélections qui ont été hyper impressionnantes, qu'on n'attendait pas. Je pense à la Suisse de Nora Djekin.
Deux années,
malheureusement, franchement,
deux euros d'affilée qui font descendre des favoris, enfin ouais, c'est...
En termes de jeu, la Suisse, c'était derrière l'Espagne, la plus belle équipe du tournoi, je pense, assez largement. On a vu la Slovaquie aussi, des belles équipes. On a vu franchement, la Roumanie aussi était
intéressante aussi. La Slovénie, j'ai bien aimé aussi.
Slovénie intéressante aussi, qui méritait de passer contre l'Angleterre. Donc c'était un peu l'euro des petits parce que justement les petits étaient constitués de joueurs qui avaient moins joué et puis qui croyaient plus en cet euro aussi.
Et peut-être qu'il y avait un jeu qui correspondait plus à ce qui s'est fait pendant l'euro, c'est-à-dire marquer un but un peu sur un contre et puis défendre après le reste du temps.
Voilà. Clairement, mais on avait des vrais pattes dans cette
équipe. Intéressant aussi, je pense.
Possible.
Je vais rejoindre Mathéo sur beaucoup de points. Pour moi, je pense que c'est depuis qu'il y a eu la Coupe du Monde au Qatar qui s'est jouée quand même assez tôt dans la saison. Je pense que sur le niveau de tous les joueurs avec les enchaînements de saison, on le ressent à nouveau. Hein. Clairement, enfin, il n'y a pas eu un grand joueur qui sort réellement de cette compétition. Ce nouveau format aussi d'avoir rajouté des clubs.
À 24.
Ouais. On sait que ça va faire pareil aussi pour la prochaine Coupe du Monde.
Oui.
Alors c'est bien, ça peut ramener
46, hein, c'est ça, la Coupe
possible.
Ouais, 46, hein. Avec le même système aussi de troisième repêché, enfin avec des
16e de finale,
qui reviennent. Enfin,
donc un match en plus encore.
En gros, prochaine Coupe du Monde, tenez-vous prêts, on part sur un mois sûr de foot.
Et beaucoup de 0-0 aussi.
Et sûrement, sûrement aussi. Et bah forcément, voilà, je pense que...
Alors, c'est qui va arriver très très vite en plus.
Je pense que c'est bien, effectivement. Alors, j'aime pas forcément dire ce terme-là, mais de petits pays de foot européen, ça leur a permis de se qualifier. Mais au final, on a envie de voir quand même on a envie de voir des héros, ça c'est sûr. Mais un euro, voilà, où il y a quand même de l'intérêt. Si on enlève la poule où il y avait l'Espagne et l'Italie à côté, est-ce qu'il y avait de l'incertitude
dans la poule de la France un petit peu quand même?
Oui, c'est clair.
On pensait que la France allait se réveiller, mais l'Autriche,
à cause du scénario. Et si tu prends sur le papier au départ, il y avait qu'une poule vraiment où tu te dis, ah, on va peut-être vibrer un peu parce que
je suis pas forcément d'accord.
Moi,
sur le papier, la France, attention, tu regardes sur le papier,
ça marchait. Donc
le Pays-Bas, enfin, c'est toujours, ça restera toujours un client dans une compétition majeure. Et l'Autriche, quand tu regardes cette sélection, tu te dis bon, ils ont quand même des bons joueurs, hein, ils ont quand même un bel effectif. Donc
la Pologne n'a pas été déconnant non plus, finalement.
Donc, c'est vrai que la France, on pensait sur le papier avoir une belle poule, mais une poule un peu plus ouverte. Mais au final, tu t'es retrouvé à casser un peu les dents quand même dedans. Donc
après, j'ai envie de dire, on s'est cassé naturellement les dents. Mais voilà. Mais je trouve que ouais, il y a très peu de matchs qui m'ont fait vibrer, enfin, et même qu'il y a très peu d'actions qui m'ont dit oh, celle-là je vais la retenir pour ce rôle-là.
Bon, Yamal quand même. Le but de Yamal contre nous, mais bon.
Ah oui, le but de Yamal contre la France, celui-là on peut le s'en souvenir.
Oui, mais il y en a.
But de Bellingham contre la Slovénie.
Oui.
Il y en a très peu, tu vois, au final.
Magnifique.
C'est pas ça. Un euro qui va rester dans les mémoires. Hein, c'est...
Non, mais après, je rejoins Mathéo sur ce qu'il disait, hein, sur le côté aussi du nombre de matchs. Parce que en fait, on parle de la Coupe du Monde aussi dans deux ans, mais l'année prochaine, tu te retrouves avec des joueurs qui vont reprendre la saison dans un mois, enfin même avec une semaine d'écart, parce que du coup, il y a les Jeux et donc il n'y a pas de compétition pendant les Jeux, à part la Ligue des Champions, enfin les phases éliminatoires. Enfin,
la Ligue des Champions va reprendre pendant les JO.
Non, là, elle reprend le week-end d'après.
Le
week-end d'après. Donc tu perds une semaine. 18 août, exactement. Et en fait, à la fin de l'année prochaine, tu te retrouves avec la Ligue des Nations ou les éliminatoires pour la Coupe du Monde, plus la Coupe du Monde des clubs, qui aura lieu l'année prochaine aussi.
Donc, et la nouvelle formule de la Ligue des Champions.
Plus, il y aura plus de matchs.
Qui sera en championnat.
Exactement. Et donc, tu te retrouves dans une Coupe du Monde où tu te dis, bon, ça serait bien d'avoir une année où les gens vont souffler, en plus, avant une Coupe du Monde, et tu te retrouves avec une Coupe du Monde à 48 après, ou 48 ou 46, c'est 48, du coup, ils en rajoutent 16. Donc voilà, et donc c'est assez incroyable de te dire que les spectateurs le voient et je te rejoins Mathéo sur le côté où tu te dis peut-être que c'est peut-être un peu la mort du foot parce que tu vas te retrouver avec trop de matchs et un désintérêt du produit quoi.
Mais le parallèle il est facile à faire avec les matchs amicaux. Quand on regarde il y a 3-4 années encore, on était à 3-4 matchs de préparation. Aujourd'hui j'ai regardé l'agenda de l'OL en tant que bon supporter, on est à 8 matchs de préparation, pas de bêtises, le double. C'est terrifiant et c'est exactement le parallèle des saisons parce où on a 50-60 matchs
pour le score, on a 6-7 hein.
Ouais, parce qu'ils vont faire des tournées par-ci par-là pour éteindre le club, tout ça, enfin, encore une histoire d'argent.
Et encore on parle pas de tournées
en Chine.
En Chine ou Japon, ouais. C'est fin.
Bon, la déception de cet euro, c'est aussi pour la France, parce que je sais que Clément, toi, t'y as un peu cru.
Bah oui, forcément, j'y ai cru. On menait en plus, je vais revenir sur le match de l'Espagne de la semaine dernière, mais on menait et puis on a proposé du beau jeu. Les 20 premières minutes, franchement, c'était intéressant. J'y ai cru parce que la France avait jamais aussi bien joué depuis le début de l'Euro, je pense. Et qu'on a bousculé cette équipe d'Espagne. Après, la réalité nous a vite rattrapé avec ce but de Yamal et ce contre son camp de Koundé. Mais j'y ai cru jusqu'à la frappe d'Mbappé qui est parti dans le ciel. Direction Madrid, j'ai l'impression.
Apparemment, elle aurait touché Donald Trump, hein, selon des journalistes.
Hein. Et apparemment, il l'a refait aujourd'hui à la présentation au Real Madrid.
Bon, en tout cas, on va voir ce que va donner l'équipe de France maintenant en Ligue des Nations, puisqu'en plus, ils ont une belle poule de Ligue des Nations. Ils vont affronter l'Italie. En plus, C'est le match de reprise pour l'équipe de France.
Ouais, mais la Ligue des Nations, on sait que c'est des matchs amicaux, quoi. Enfin, c'est.
Ouais, mais ça donne un trophée et ça donne un peu des sous aussi à la fédération.
On se rappellera de la campagne avec Benzema où on gagne face à l'Espagne à la fin. Le match contre la Belgique, ça reste quand même des matchs qui sont peut-être plus marquants que les matchs de l'Euro de cette année.
Je pense que oui.
Et peut-être que c'est peut-être ça qui fera en sorte que Didier Deschamps quitte la tête de l'équipe de France.
C'est mal parti.
On sait jamais.
Je vais rester. Le président, vous lui demandez, il a dit Dédé, il reste.
D'accord. Ça m'étonnerait pas qu'il ait plus de pouvoir que Diallo.
c'est fort possible aussi, exactement.
Et puis bon, on aura peut-être le temps d'en parler un peu plus tard, mais Deschamps et sa com, va falloir en parler un moment. Le mépris des journalistes et réellement de ce que lui propose en termes de jeu, Monsieur Deschamps, va peut-être falloir aussi faire une introspection sur vous-même, dans vos choix et dans vos façons.
Oh, tu sais, je pense que ça fait longtemps qu'il ne l'a fait plus, malheureusement. Mmh. Je pense que durant toute sa carrière, ça a toujours été ça. Exactement. On va changer de sujet. On va rester en France. On va parler de l'équipe de France, mais là, on va parler du Tour de France. On en a pendant quelques instants. Je sais que Mathéo, tu as beaucoup suivi le Tour.
Qui est fini. Non, on va pas dire ça encore, mais quand même.
Il est pour l'instant mené d'une main de maître par Tadej Pogacar.
À minima une main de maître,
c'est clair. Il a une main sur le maillot jaune,
sur le cyclisme tout court.
Exactement.
C'est je bois et puis ça va peut-être compliquer. Je vais m'arrêter de boire. Hein, puis vas-y, je vais montrer que je suis fort.
On va quand même donner le vainqueur du jour. C'était Jasper Philipsen qui s'est imposé aujourd'hui, donc du côté de Nîmes, dans un sprint final. Derrière lui, terminé deuxième Phil Baos, et il y a aussi un autre sprinter allemand, je crois que c'était pas Pascal Ackermann qui finit troisième, mais voilà, en tout cas c'est Philipsen qui finit premier, le Belge de la formation, donc j'ai même plus le nom de sa formation, Alpecin de Koenig,
troisième victoire
Binyam Girmay, le maillot vert est tombé dans les derniers kilomètres, donc voilà. Mais Tadej Pogacar, est-ce qu'il y a toujours un intérêt de regarder le Tour de France dans cette dernière semaine ou pas?
Oui, on va dire oui, parce que c'est cool de regarder le Tour de France tout de même, ça fait penser à l'été, et puis va y avoir des belles étapes quand même c'est en fin de semaine avec du coup 4 étapes de montée, enfin des étapes où il y aura de la montée et possiblement des attaques et des belles échappées qui vont au bout. Et puis il y a surtout ce contre-la-montre pour finir, et qui, si Vingegaard a redistribué les cartes d'ici là, peut tout déterminer, et pourquoi pas avoir une fin de Tour de France haletante avec un Vingegaard qui revient, mais j'y crois pas trop.
Deux étapes de moyenne montagne, deux étapes de haute montagne, donc vendredi et samedi, le contre-la-montre dont tu parlais, entre Monaco et Nice. Dimanche, Mathéo, est-ce qu'il y aura une victoire française d'ici là?
Waouh, ça c'est une très belle question. Finalement, je l'espère fortement. Pourquoi pas un David Gaudu qui monte un petit peu en puissance. Il avait pas le choix vu le début de Tour de France catastrophique. On en avait déjà parlé à l'antenne. On avait bien rigolé sur cette première étape en Italie. Mais non, je vais partager l'avis de Clément. Franchement, ça va être une fin de Tour de France qui peut être disputée, je pense quand même si Pogacar semble trop loin, c'est assez terrifiant. Finir sur un contre-la-montre aussi, ça va être un beau moment de cyclisme.
Evenepoel, pourquoi pas, pour repasser devant Vingegaard, on sait jamais.
Ouais, il est à 2 minutes de Vingegaard.
La dernière fois qu'un Tour de France est fini par un contre-la-montre, c'était avec Lemon et Fignon, et Fignon pouvait gagner le Tour, et malheureusement il gagnait le Tour même, et il a perdu son maillot jaune pour quelques secondes, donc peut-être que ça fera là exactement la même chose. En tout cas, on souhaite pour le suspense de ce Tour de France. Cédric, est-ce que tu suis un peu le Tour aussi?
Non,
pas du tout.
Non, parce que pas le temps, tout bonnement.
Ouais, j'imagine.
Oui,
bien sûr.
j'ai essayé de demander au travail.
Le soir, tu regardes un peu le résultat.
Je regarde vite fait les retours, mais bon. C'est ce que j'avais dit, hein, à partir du moment où il a pris le maillot, Pogacar, ou qu'il a en tout cas touché, pour moi c'était fini. Au niveau de l'équipe, ça allait rouler, ça allait contrôler. Je trouve ça dommage, ça tue un peu le Tour de France. J'ai l'impression de voir un peu une simulation de cyclisme ou
Sky, tout ça.
Ah, ouais, mais après, il a pas tort. C'est vrai que d'un point de vue budget, t'as l'impression d'être sur un pro cycling manager.
Et puis t'as le reste. Ouais,
c'est quelque part le cyclisme moderne. Hein, c'est...
Oui. Mais quand tu vois que Romain Bardet, par exemple, il dit qu'il a jamais été aussi fort. Et là, il est dans les, je crois qu'il est dans les 60.
Après, il vise pas
le premier général français cette année. Je crois que pour l'instant, il est 16e de mémoire.
Non, plus que ça. Guillaume Martin, il est derrière les 20e, de la 20e place.
Ah, j'ai cru voir.
C'était le premier français, exactement. Après, il y avait Julien Bernard aussi, qui était bien placé pendant un temps, mais il a explosé dernièrement, c'est vrai. Le premier français, je vais te le donner, il est maintenant, je vais sous les yeux. C'est Guillaume Martin, 16e. 16e.
Ah, 16e. Ah, bah,
il est 16e.
Il a pris des places, alors.
À 38 minutes. À 38 minutes, voilà. 38 minutes.
Voilà, en parlant de temps, on a quand même des personnes dans le top 10 qui sont à un quart d'heure de...
Le quatrième, il a 10 minutes. Donc,
L'année dernière, c'était déjà ça, hein.
Oui, mais ça à la dernière.
Oui. C'est ce que ça va être, là, oui.
Parce que là, tu te retrouves avec l'étape de vendredi soir. Enfin, s'il y a une étape à regarder pour nos auditeurs, regardez l'étape de vendredi, parce que c'est trois cols à plus de 2000 mètres. Ils vont monter quasiment à 2800 mètres. C'est favorable à Vingegaard, c'est vrai, exactement. Donc on verra ce que ça va donner pour lui pour cette étape, mais c'est vrai que ça va être une étape de folie des écarts qui vont être monstrueux
c'est une étape à voir rouder, hein. C'est pas ceux qui vont être en tête du.
Je pense qu'ils vont la gagner. T'inquiète qu'il y a l'un des deux qui va la gagner parce que c'est l'étape
sur le plateau de Baye.
Si t'enlèves les deux derrière, je pense que c'est. Tu vois, ça va être vraiment les purs grimpeurs qui sont mal placés, qui savent que de toute façon pour le Tour de France de gagner c'était impossible.
C'est l'étape royale des Alpes. Je pense qu'il y a au moins l'un des deux qui va vouloir la cocher et la voir. S'il y a des échappés, pour moi on en parlait un peu en antenne avec Clément, demain ou jeudi où c'est plus propice pour peut-être gagner.
Même samedi peut-être aussi.
Et on l'espère parce qu'on en a pas eu encore de victoires d'échappés.
Si, les trois françaises c'est les trois victoires. En fait il y a eu trois échappés qui sont à Lebo et c'est les trois victoires.
Il y avait pas beaucoup d'écart si je dis pas de bêtises.
Bardet, c'est vraiment.
Bardet, ça s'est joué à 2 secondes.
Non, mais c'est tellement.
Turgis, si, la victoire de Turgis, il avait.
C'était à 1 minute. À 3. Ouais. Ouais, c'est clair. À 3.
Oui. Ah oui, d'accord, ouais.
C'était à 3. Non, ils avaient plus d'avance cette fois-ci.
Allez, avant de finir l'émission, on va quand même se quitter rapidement pour du tennis, parce qu'on va quand même donner la performance de Carlos Alcaraz qui a balayé Novak Djokovic en 3-7, notamment les deux premiers, 6-2, 6-2, et je crois que le dernier, c'est 7-6 de mémoire.
7-5.
7-5, donc à Wimbledon. C'est son quatrième grand chelem de sa carrière.
Doublé à Wimbledon.
Doublé à Wimbledon, exactement. Est-ce qu'il faut s'attendre? Et puis, en plus, il avait gagné à Roland-Garros, il gagnait à Wimbledon. Ça va être le grand favori pour les Jeux et pour l'US Open à suivre. Est-ce qu'il faut s'attendre à ce que Carlos Alcaraz, parce qu'on a l'impression que c'est le joueur parfait, le joueur ultime, capable de gagner partout. Est-ce qu'il est capable de détrôner Novak Djokovic dans son record?
Je pense que les blessures, malheureusement, les blessures ne vont pas l'épargner. Elles ne l'ont déjà pas trop épargné parce que là, on le rappelle qu'il revient, après de nombreuses blessures. Je sais pas, je le vois pas comme un Nadal ou un Djokovic parce que justement, il y aura ces blessures dans le jeu. Je pense qu'il est,
il est injouable.
Oui, il rivalise à des Djokovic et des Nadal à leurs grandes époques, mais est-ce que il va réussir? Son corps va-t-il suivre? Ça, c'est la question.
Un avis.
C'est le futur, ça c'est sûr. Mais je pense qu'il ne sera pas le seul. On retrouvera peut-être pas à 100%, mais l'équivalent des Nana Djokovic. Enfin,
avec Sinner.
On voit qu'il y a pas mal de jeunes joueurs qui sont arrivés, qui ont tourné autour, qui n'ont pas forcément encore gagné, mais qui gagnent des tournois un peu moins. Là, clairement, il jouait contre un Djokovic aussi, qui revenait de blessure, avec une blessure, on sait pas réellement s'il était à 100%.
Oui.
Quand on sait que